Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir les outils pour mettre en place votre veille techno et concurrentielle. Tout d'abord, pourquoi est-il important de mettre en place une veille dans votre domaine? Alors laissez-moi vous raconter l'histoire du Macintosh. En 1976, c'est la création d'Apple avec les prémices de l'ordinateur individuel. À cette époque, Xerox est très en avance dans de nombreux domaines et développe de nombreuses technologies informatiques. En 1979, Steve Jobs visite le Xerox Park. C'est le centre technique de l'innovation de Xerox. Steve Jobs découvre un prototype d'ordinateur avec une souris et comprend le potentiel énorme pour son activité. Du coup, il rachète les brevets à Xerox. Puis en 1982, c'est la sortie de Lisa, donc un ordinateur individuel, avec une souris et une interface graphique. Et enfin, en 1984, c'est la naissance du Macintosh. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Steve Jobs s'est créé des opportunités en étant en veille sur ce qui se faisait dans son domaine. Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un verrou de volet roulant. Le verrou de volet roulant, c'est l'élément qui relie l'arbre d'enroulement avec le tablier. Et lorsque le tablier arrive en position basse, le verrouille tout simplement. Alors, pour l'histoire, donc en 1998, Zurflüffeler, la société pour laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans, brevette le verrou ClickSure qui s'est rapidement imposé comme un succès commercial. Donc tout va pour le mieux. Puis en 2001 apparaît une nouvelle techno de bi-injection compatible thermiquement mais incompatible chimiquement. Donc ça permet d'injecter dans le même moule successivement des matériaux qui sont thermiquement compatibles, donc vous pouvez utiliser avec la même machine, avec le même procédé d'injection, mais en revanche ils sont incompatibles chimiquement, c'est-à-dire qu'une fois que vous démoulez la pièce, les différentes parties deviennent mobiles les unes par rapport aux autres. Alors, en 2004, une société de menuiserie se lance d'ailleurs dans l'injection de bicomposants. Et quelques années plus tard, après avoir utilisé ce procédé, après l'avoir maîtrisé, cette société dépose un brevet de verrou bi-injection indémontable, donc en utilisant exactement ce procédé innovant. En 2014, un brevet est publié. Et en 2017, le verrou est commercialisé, donc il est vu par le grand public la première fois. Il aura fallu attendre 2018 pour que le verrou soit testé. Le résultat du test était très bon, c'est-à-dire que le produit était performant et surtout beaucoup moins cher. Alors ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'aucune alerte n'est arrivée avant la commercialisation du produit. Du coup, l'entreprise leader du marché a dû réagir urgemment pour tenter de limiter les pertes de parts de marché face à ce nouvel entrant. Donc vous voyez que l'absence d'information, peut vite coûter cher. À la vue de ces deux exemples, voyons ensemble les 5 bonnes raisons pour mettre en place une veille. Une veille techno efficace vous permet d'identifier les signaux faibles pour d'une part anticiper plutôt que réagir, d'autre part, saisir des opportunités, mais aussi prévenir des menaces. En réalité, c'est comme une forme d'assurance, vous investissez du temps pour minimiser les risques. Alors, Napoléon disait à ses généraux, « Se faire battre est excusable, se faire surprendre est impardonnable. » Donc je trouve la citation intéressante par rapport à la veille. À un niveau plus personnel, vous avez aussi de bonnes raisons de mettre en place une veille. Cela vous permettra d'être reconnu dans votre domaine, d'entretenir vos connaissances et surtout ne plus subir les événements. Alors pour rester performant dans un monde en perpétuelle évolution, il est capital d'apprendre en permanence. En quelque sorte, on pourrait dire que l'on reste un apprenti toute sa vie. Pour autant, je constate souvent qu'il y a généralement 2 points de blocage pour mettre en place une veille. La première raison est de ne pas avoir assez de temps à consacrer à une recherche d'informations. La deuxième, c'est de ne pas savoir comment s'y prendre et où trouver des informations pertinentes. En réalité, tout le monde fait de la veille, d'ailleurs sans véritablement s'en rendre compte. Par exemple, à travers la lecture de magazines spécialisés, ou lors de recherches sur Internet tout simplement, ou bien lors de visites sur des salons professionnels, et enfin, à travers des visites clients ou des fournisseurs. Enfin, si vous voulez, tous les échanges que vous pouvez tisser avec eux sont en réalité de la veille. Malgré tout, il est nécessaire de professionnaliser la démarche, car le constat est que l'on passe souvent à côté d'informations essentielles. Il est nécessaire d'être plus efficace, en même temps en y passant, si vous voulez, le moins de temps possible. Alors comment faire tout cela? Eh bien, tout d'abord, il faut structurer votre démarche autour de vos objectifs. Donc on trouve évidemment plus facilement quand on sait ce que l'on cherche. Ensuite, je dirais automatiser tout ce qui peut l'être pour gagner du temps, puis optimiser régulièrement votre démarche eh bien pour la rendre efficace. Et enfin, partager l'information pour qu'elle irrigue l'ensemble de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Avant d'aller plus loin, replaçons la veille dans son contexte, et notamment celui de l'intelligence économique. Alors on voit sur ce schéma que l'intelligence économique intègre plusieurs composantes. Tout d'abord, la veille technologique, qui concerne par exemple la recherche, les brevets, les normes, les process, etc., etc. Vous retrouvez également la veille commerciale et concurrentielle, qui, elle, concerne par exemple vos fournisseurs, vos clients, les innovations produits qui arrivent régulièrement sur le marché. Et enfin, donc, vous retrouvez toutes les autres veilles qui sont plus largement concernées par des problématiques économiques, politiques, juridiques, financières et sociales. Et comme vous le voyez, eh bien, ces composantes sont liées entre elles et l'information circule de l'une à l'autre. L'ensemble de ces composantes correspond à l'intelligence économique. En réalité, le monde dans lequel nous vivons est un monde d'hyper-concurrence où chacun défend ses intérêts. Nous sommes en réalité dans une guerre économique. Et d'ailleurs, les États interviennent également pour aider les entreprises. Par exemple, aux États-Unis, il faut savoir que 2 missions sur 3 de la CIA concernent un dossier économique. Les enjeux sont en réalité considérables. On voit sur l'infographie proposée par Statista le budget officiel de certaines marques pour leur lobbying à Bruxelles. Alors le lobbying, c'est quelque part une forme de veille proactive. Alors ces chiffres sont très certainement sous-estimés, hein, car cette démarche reste plutôt discrète, voire secrète dans certains cas. Pour bien comprendre la veille et son intérêt, il est important d'observer l'évolution des signaux que l'on perçoit. Tout d'abord, les signaux sont nouveaux, isolés et sporadiques. Alors ce sont des signaux faibles, si vous voulez, qui sont finalement difficiles à discerner. Ensuite, vous avez des signaux qui convergent et dessinent une tendance qui, elle, est plus facilement observable. Puis les signaux s'organisent, et si on ne les intègre pas, eh bien, évidemment, cela devient une menace. Et enfin, l'information devient visible pour tout le monde, car il s'agit, par exemple, de produits ou de services commercialisés. Donc si on reprend les exemples que nous avons vus, donc pour la souris, Steve Jobs a intégré les signaux faibles dès le début, générant ainsi des opportunités pour son business. Et pour l'histoire du verrou de volet roulant, eh bien l'information n'a été prise en compte qu'à la fin du processus, générant ainsi des problèmes pour la société qui produisait le verrou clicsure. À présent, rentrons un peu plus dans le détail de la veille techno et concurrentielle. Et voyons ensemble quelles sont les veilles intéressantes pour l'innovation produit. Tout d'abord, il y a la veille produit. Alors ça revient à être au courant des produits commercialisés par vos concurrents, notamment les produits innovants. Il y a aussi la veille métier. Par exemple, si vous devenez expert dans un domaine comme la domotique, et vous devrez vous maintenir au top sur les nouvelles technologies. Il y a aussi la veille process. Par exemple, si vous devenez expert en injection plastique, là aussi, il faudra vous maintenir au top dans les procédés de production. Et dans ce cas, vous pourrez aussi vous intéresser aux matériaux, si on prend l'exemple des matériaux plastiques. Il existe aussi la veille brevet, pour savoir quelles technologies développent vos concurrents. Et enfin, la veille réglementaire. Alors cela revient à être au courant des textes de normes en cours de création. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on retrouve généralement les principales entreprises dans un secteur, dans les commissions de normalisation. Quand on parle de veille, on veut accéder à des informations. Eh bien, il faut savoir que 90% des informations techniques sont ouvertes, c'est-à-dire accessibles à tous, comme par exemple les magazines, les blogs, les brevets, ou alors les banques de données scientifiques, techniques ou économiques. On retrouve aussi toutes les sources d'informations qui concernent des entreprises, hein, au sens large, que ce soit les fournisseurs ou les clients. Vous pouvez aussi désosser des produits concurrents, donc ça aussi c'est de la veille, en utilisant donc le reverse engineering, c'est très pratique. Et il existe aussi toutes les sources d'informations type expertise, comme par exemple sur des aspects techniques ou le service client d'ailleurs, qui peut être intéressant à consulter régulièrement. Et enfin, vous retrouverez beaucoup d'informations sur les foires et les expositions. En revanche, 10% des informations techniques sont fermées, c'est-à-dire non accessibles à tous. Or, ce sont par exemple les informations que l'on obtient lors d'une discussion avec un client, avec un fournisseur ou un partenaire, ou alors les informations payantes obtenues grâce à l'expertise d'une société de conseil. Donc, bien souvent, si vous voulez, pour aller chercher cette info, il faut aller sur le terrain ou alors payer pour y accéder. Voyons maintenant comment construire votre veille. C'est en réalité assez simple, il y a 4 étapes à suivre. Tout d'abord, identifier les besoins, puis collecter l'information, ensuite analyser et stocker cette information, et enfin la diffuser. Au final, si vous voulez, la veille, ça revient à donner la bonne info à la bonne personne au bon moment pour prendre la bonne décision. Voici maintenant quelques conseils pour mettre en place une veille. Tout d'abord, je conseille de commencer petit à petit. Si vous êtes trop ambitieux dès le début, vous allez crouler sous l'information et ça deviendra contre-productif. Ensuite, il faut identifier les besoins. Si vous voulez construire une veille pour un service, par exemple, dans ce cas, il est intéressant de faire un petit audit, un petit diagnostic, si vous voulez, pour savoir de quoi les gens ont besoin. Puis vous devrez définir des axes de recherche. Alors ensuite, pour que les choses soient claires, d'autant plus si c'est une veille pour une entreprise, je vous invite à formaliser un cahier des charges pour votre veille qui définit les objectifs, les moyens et la procédure que vous allez suivre. Et enfin, il est nécessaire d'impliquer les équipes et favoriser l'esprit veille, entre guillemets, pour que ça soit fédérateur. Et là, c'est un point qui est vraiment important, car par expérience, même si vous diffusez des informations importantes, il n'est pas toujours évident qu'elles soient lues. Maintenant, voyons ensemble quelques outils bien utiles pour votre veille. Alors, commençons par Google. Alors vous allez me dire, ça je connais, mais est-ce que vous utilisez les opérateurs de recherche avancés? Alors voici les principaux que j'utilise. Vous pouvez par exemple utiliser les guillemets, donc ça vous permet de rechercher une chaîne de caractères et donc de cibler d'autant plus une recherche autour de l'association de deux mots qui se suivront. Vous pouvez également utiliser des opérateurs booléens. Vous avez le AND qui est implicite, mais vous pouvez aussi utiliser le OR pour donner une alternative, ou le moins pour exclure un terme. Vous pouvez également utiliser le petit tilde pour des synonymes. Alors, un autre point, c'est de synthétiser, si vous voulez, de focaliser sur un format de document spécifique. Donc pour ça, il faut utiliser l'expression extension, EXT 2 points, puis le format que vous voulez utiliser, ce qui peut être PDF par exemple, pour accéder à des documents plutôt sous forme de rapport. Vous pouvez également utiliser InTitle, qui est utile pour cibler une recherche dans le titre. Et puis enfin, ce qui est aussi intéressant, quand vous lancez une recherche et que vous obtenez des résultats, lorsque vous accédez à un article intéressant, vous avez toujours au-dessous la possibilité d'accéder à d'autres articles que Google vous conseille et qui concernent à peu près la même chose. Alors, par exemple, si vous êtes ingénieur produit chez Decathlon et que vous devez rechercher des informations sur des matériaux amortissants pour des chaussures de running, voici la requête que vous pourriez formuler. Vous voyez, tilde running, donc pour running et les synonymes, entre parenthèses shoes ou footwear, qui sont deux mots couramment utilisés pour la chaussure. Donc vous remarquez que j'utilise plutôt des termes en anglais pour avoir accès à un maximum d'informations sur le web. La très très grande majorité des informations est en anglais. Ensuite, j'ai ajouté le terme material. Alors, j'ai mis in title au niveau de l'amorti. C'était vraiment le terme qui pour moi était le plus important. Et ensuite, eh bien, j'ai réalisé une recherche plutôt sur des rapports, donc avec un format PDF. Donc là, nous sommes sur mon ordinateur, sur Google. Si on place le petit algorithme dont je viens de vous parler, eh bien, vous voyez que l'on a accès à un certain nombre d'articles qui correspondent exactement à ce que nous cherchons, vous voyez, au format PDF, intégrant directement les bons mots-clés. Et puis, vous pouvez voir également eh bien, qu'il est possible, hein, de, si un article vous intéresse, eh bien, d'accéder à d'autres articles. Et puis en même temps, vous voyez à côté le nombre de fois où il est cité. Vous voyez par exemple, celui-ci est cité 58 fois, c'est qu'il est sans doute intéressant. Donc si nous cliquons sur « Autres articles », eh bien vous voyez ici donc, toute une série d'articles en lien avec celui sur lequel eh bien, nous venons de faire notre choix et qui peuvent potentiellement vous intéresser. Voyons maintenant comment utiliser Google Images. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez par exemple utiliser des graphiques pour des études. Donc c'est toujours intéressant d'avoir accès, par exemple, à des résultats d'essais, à des statistiques ou des sondages. Donc si on reprend toujours notre exemple de recherche d'informations sur des matériaux amortissants pour des chaussures de running, eh bien, voici la requête que vous pourriez formuler. Donc vous voyez toujours avec le tilde de running, shoes or footwear, material, cushioning. Et là, j'ai rajouté graph. Pour finalement avoir accès plutôt à des données visuelles. Donc j'aurais pu par exemple utiliser le terme diagramme, j'aurais eu accès également à des choses intéressantes. Donc là juste pour vous montrer sur Google Images, donc si on colle le petit algorithme dont je viens de vous parler et que l'on valide, eh bien vous voyez ici apparaître un certain nombre d'images exactement en lien avec le sujet que nous traitons. Et vous voyez comme on a sélectionné le terme graphique, eh bien apparaissent également des graphiques en lien avec justement les matériaux amortissants. Donc là, on voit des rapports d'essai pour mesurer finalement la quantité d'amorti dans une semelle. Donc c'est intéressant. Vous voyez ici également des rapports d'essai. Là également, donc si vous cliquez dessus, forcément, vous allez tomber sur une étude. Et vous voyez, en cliquant sur l'image, eh bien, vous en appelez d'autres. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que là, vous voyez exactement donc, tous les rapports d'essai inclus finalement dans des études qui correspondent exactement au sujet dont vous parlez. Alors, ce qui est sympa également avec Google Images, c'est que une fois que vous avez défini un sujet de recherche, eh bien, vous pouvez accéder à des experts, donc contacter des experts en lien avec ce sujet-là. Donc, pour ça, tout simplement, eh bien, vous cliquez sur « Paramètres », vous faites « Recherche avancée ». Et ici, au niveau du type d'image, eh bien, vous indiquez « Visage ». Vous faites « Rechercher ». Et donc là, vous voyez toute une liste finalement d'experts qui vous parlent d'amortis de chaussures. Alors évidemment, vous allez retrouver beaucoup de blogueurs, de youtubeurs, mais également des experts scientifiques. Donc c'est à vous de regarder, de chercher. Donc forcément, vous allez pouvoir trouver des personnes intéressantes à contacter pour éventuellement vous apporter des informations sur le sujet sur lequel vous travaillez. Avec Google Images, ce qui est aussi formidable, eh bien, c'est que vous pouvez faire une recherche d'une éventuelle contrefaçon. Donc imaginez que vous soyez le concepteur de la nouvelle chaussure Nike Vaporfly. Eh bien, en cliquant ici sur la petite caméra, vous pouvez importer une image, en l'occurrence de cette chaussure que j'ai préparée. Voilà. Vous faites valider. Et donc là, Google travaille pour vous et ressort, vous voyez, toutes les images qui correspondent finalement à ce modèle-là. Donc ensuite, libre à vous de regarder s'il y a des copies parmi ces photos. Donc vous voyez qu'on peut exploiter Google Images eh bien, de plein de façons différentes. Alors je vous présente maintenant un outil que j'utilise presque tous les jours, c'est Feedly. Alors c'est quoi Feedly? Eh bien, c'est un agrégateur de flux RSS. Alors il faut savoir que de très nombreux sites font apparaître leur contenu à travers ce type de flux d'informations. Et donc pour ça, eh bien, il vous suffit de vous abonner hein, en un clic sur un site particulier, donc à travers cette plateforme Feedly, eh bien, pour recevoir le contenu du site directement. Et ainsi, eh bien, vous pouvez agréger différentes sources, toujours suivant le même procédé, et puis suivre comme ça un thème ciblé, qui au final eh bien, vous donnera un maximum d'informations avec une lecture qui au final est très facile et très agréable. Et c'est ce que nous allons voir directement sur le site. Donc là, je me suis connecté. Et pour ajouter un article, eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit donc d'appuyer sur Add Articles. Donc vous voyez ici donc une fenêtre, soit vous pouvez rechercher directement les sites pour lesquels vous allez chercher donc ce flux d'informations par un mot-clé ou alors par thème. Donc je vous conseille par mot-clé. Prenons l'exemple d'une veille techno que l'on souhaiterait mener sur la domotique. Alors nous cliquons ici sur domotique directement, entrée. Et donc là vous voyez une sélection de sites internet sur le thème de la domotique. J'en profite pour vous montrer que Feedly vous propose également d'autres mots-clés en lien avec la domotique. Donc c'est intéressant, vous voyez donc la technologie, les objets connectés sont très intéressants en lien avec la domotique, tout ce qui est geek ou Arduino. Donc vous voyez ici un certain nombre de sites, donc maison et domotique. Vous voyez également le nombre de followers et la fréquence d'articles. Donc ici 4 articles par semaine, donc ça c'est intéressant. Domotique Info, Planète Domotique, la domotique de Saraka, ok. Donc si vous trouvez un site intéressant, en l'occurrence maison et domotique, vous cliquez sur Follow. Et donc là, Feedly vous demande donc de créer un flux, donc vous allez créer un flux en lui donnant un nom. Donc ici vous voyez des suggestions domotiques, donc c'est exactement le nom que je voulais donner. Donc je sélectionne la suggestion et je crée. Donc là vous voyez dans la colonne de gauche, donc sous l'onglet domotique, a bien été ajouté donc le site maison et domotique. Donc vous pouvez par la suite rattacher tous les sites qui vous intéressent. Donc vous pouvez continuer ainsi jusqu'à une sélection de 100 sites. Donc vous avez toutes les informations ici concernant donc la formule basique. Donc vous pouvez sélectionner 100 sources. Vous avez 3 feeds, donc c'est-à-dire 3 thèmes, comme ici domotique. Et vous pouvez avoir également accès à ces informations sur votre mobile ou votre ordinateur. Vous avez ensuite des versions payantes qui sont beaucoup plus complètes, mais la version basique et libre est vraiment suffisante. Donc on va revenir à notre sélection d'articles. Donc vous pouvez cliquer ici sur domotique. Et donc là, vous retrouvez tous les articles des sites que vous avez sélectionnés justement précédemment. Donc là, vous voyez les articles les plus populaires. Et ensuite, vous voyez un classement par date, donc le 18 septembre, le 17, le 13. Et je crois que quand vous référencez un nouveau site, il vous ressort donc les derniers articles du dernier mois. Alors une petite astuce, quand vous référencez un site pour une première fois, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir une visu sur les articles qui ont été édités à travers ce site pour déjà regarder plus précisément si cela vous va bien. Donc celui-ci est intéressant. Le suivant aussi. Donc à supposer que ça ne soit pas le cas, vous pouvez le retirer. Donc vous cliquez ici et là vous appuyez sur Unfollow. Et le site sera retiré, voilà, de votre sélection. Donc là, il n'apparaît plus sur la colonne de gauche. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'après donc avoir référencé une dizaine de sites pertinents, après avoir fait le ménage, donc Feedly vous propose d'autres sites qui pourraient vous intéresser. Donc vous pouvez comme ça construire une liste de sites vraiment pertinents par rapport à ce qui vous intéresse. Alors maintenant, je vais vous montrer des sites pour accéder à des documents scientifiques et techniques. Alors je vous en propose 4, voici ma sélection. Il y a tout d'abord DOAJE, qui est Directory of Open Access Journals. Alors c'est quoi? Eh bien c'est une base de données bibliographique. Alors ce qui est très pratique, c'est que vous avez accès à vraiment beaucoup de documents, et notamment avec le lien de traduction de Google, eh bien vous pouvez traduire le résumé d'une publication, donc c'est très pratique. Ensuite, vous avez le site DART, qui est un système, si vous voulez, de thèses en ligne, qui fonctionne au niveau européen. Et donc là, vous avez plus de 800 000 thèses provenant de plus de 600 universités et provenant également de 28 pays différents. Donc vous voyez, c'est assez colossal. Vous avez également le même type de site qui est plutôt dans un registre français, donc c'est thèses.fr. Ça regroupe quand même plus de 400 000 thèses, dont les deux tiers sont en français, donc c'est aussi très intéressant. Et puis vous avez le moteur de recherche Google Scholar, qui est une large source d'informations, si vous voulez, avec des publications, des brevets. Et là, vous avez toute la puissance de Google, avec aussi une ergonomie qui est facilitée, notamment avec des filtres qui fonctionnent très bien. Donc vous venez de voir 4 sites qui finalement vous aident pour recueillir des informations provenant de bases de données scientifiques. Alors je voudrais juste vous montrer l'exemple de DOAJE. Donc là vous êtes sur le site directement de doaj.org. avec une fenêtre de recherche. Donc si on reprend l'exemple de nos matériaux amortissants pour des chaussures de running, eh bien vous utilisez tout simplement ici donc cette fenêtre-là. Donc je vais taper cushioning pour dire, tac, je valide. Donc là, vous voyez, vous avez 176 résultats de recherche, donc c'est un peu trop. Donc on va regarder, on va rajouter finalement une précision. On va mettre matériaux. On va regarder ce que ça donne. Donc ça restreint la fenêtre à 37 résultats. Et on va mettre même carrément running pour dire. Et donc là, vous êtes à 3 résultats. Donc vous voyez, en l'espace de quelques secondes, j'ai 3 documents scientifiques qui relatent finalement des informations importantes qui correspondent parfaitement à ma recherche et au sujet sur lequel je travaille. Alors au niveau de la veille réglementaire, en réalité, c'est assez difficile de mettre en place ce type de veille sur Internet. Et bien, tout simplement parce que l'information est complètement éclatée en fonction des zones géographiques. La normalisation peut concerner des zones géographiques évidemment différentes. Donc du coup, c'est difficile d'en faire une synthèse. Et c'est la raison pour laquelle il existe des sociétés qui se sont spécialisées dans ce domaine. D'ailleurs, l'AFNOR propose l'achat de normes et également un service de veille. Alors, en ce qui concerne la veille brevet, vous pouvez utiliser les bases de données brevet. Et je vous conseille notamment d'utiliser l'outil EspaceNet, qui est un outil gratuit et qui est vraiment très performant. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser une recherche par le nom du demandeur. Donc, nous allons voir tout ça plus en détail. Donc là, nous sommes sur le site d'EspaceNet. Donc, imaginons que nous voulions rechercher des brevets, être en veille sur des brevets que dépose Decathlon, mettons. Donc là, je vais taper Decathlon. Je valide. Alors, il faut un petit peu affiner la recherche parce que là, c'est une recherche par mots-clés. Donc, il est possible que l'on pointe les brevets qui parlent de Decathlon, également le sport Decathlon. Donc, je clique ici sur recherche avancée et je vais affiner donc cette recherche en disant que ce que l'on veut, ce sont les demandeurs. Que Decathlon, voilà, soit bien le demandeur. Alors, ce qu'on veut également, c'est que on voudrait restreindre les brevets parce que là, donc vous voyez, si j'affine la recherche, il y en a 447. Ce qu'on veut finalement, c'est rajouter un champ pour préciser également la date. Donc on va mettre, mettons, la date de 2020. Donc, vous voyez, il y a 41 brevets qui ont été déposés. On veut peut-être même être plus précis, c'est-à-dire déposer, regarder les brevets déposés en septembre. Donc, vous voyez, il y en a eu 4 de déposés. Alors, si vous faites une veille également sur d'autres marques, vous pouvez ajouter comme ça, Nike, vous pouvez ajouter également Adidas. Voilà, vous pouvez ajouter jusqu'à une dizaine comme ça de marques. Alors, j'attire également votre attention sur le fait que il est possible, si on prend l'exemple de Decathlon, qu'un brevet soit déposé par une autre entité que Decathlon. Vous voyez, c'est un groupe. Donc il y a d'autres entités qui potentiellement peuvent déposer des brevets. Donc ça, à force de rechercher des brevets, vous allez vous en rendre compte et voir que Decathlon peut-être utilise une autre société pour déposer ses brevets. Mais en tout cas, dans la présentation, donc si on s'arrête là et qu'on affine la recherche, on voit que voilà, vous avez 148 brevets qui ont été déposés par Decathlon, Nike et Adidas en septembre 2020. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ici dans la fenêtre de recherche, vous avez le petit algorithme qui représente finalement cette recherche-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de le copier. Et comme ça, le mois suivant, quand vous voudrez effectuer une mise à jour de votre recherche, vous voyez, il vous suffira tout simplement de copier à l'intérieur de cette fenêtre le petit algorithme et juste de changer le mois. Donc là, je mets octobre. Et là, vous aurez sur le même périmètre, c'est-à-dire les brevets déposés par Decathlon, Nike, Adidas, et bien sûr octobre, vous aurez l'ensemble des brevets déposés. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur un brevet pour ensuite voir de quoi il est constitué, de quoi il s'agit. Donc, ne vous en faites pas, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment lire précisément un brevet de manière efficace, sans perdre de temps. Donc, on verra ça prochainement. Un outil hyper simple à utiliser pour faire de la veille, c'est d'utiliser tout simplement Google Alert. Sur un mot-clé prioritaire, comme par exemple le nom d'une société, vous pouvez faire de la veille concurrentielle. Vous pouvez également donc mettre en place sur ce site le fait de recevoir une alerte qui arrive régulièrement dans votre boîte mail, avec une fréquence de réception qui est ajustable, donc c'est vraiment très pratique. Le dernier moyen dont je vais vous parler pour faire de la veille, c'est la visite de salon. Alors, faire un salon, c'est vraiment hyper sympa et surtout très efficace, parce que ça vous permet, si vous voulez, d'avoir un accès à un concentré d'informations sur une seule journée. Je vous invite vraiment d'ailleurs à planifier une visite de salon par an. C'est vraiment intéressant pour maintenir un niveau de connaissance dans un domaine. Et puis quelques conseils pour tirer profit d'une visite de salon. Je vous conseille de préparer votre visite à l'avance pour définir ce que vous voulez voir. Certains salons sont vraiment immenses, il vaut mieux s'organiser. Vous pouvez aussi vous inscrire à des conférences, c'est toujours très intéressant. Et puis enfin, le dernier conseil, c'est de faire un compte-rendu à la fin. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça vous oblige, si vous voulez, à être plus pro dans votre démarche et vous serez bien content de remettre la main facilement sur des informations importantes. Pour ensuite diffuser l'information, eh bien, vous avez deux options. Tout d'abord, la diffusion orale. Alors, dans ce cas, vous pouvez par exemple mettre en place un point veille au plus près des décideurs de votre entreprise. Ça vous permettra notamment d'avoir un feedback en temps réel, donc c'est toujours très intéressant, d'engager également une discussion sur un thème. Et puis, vous pouvez aussi opter pour une diffusion numérique, avec par exemple un mail périodique, donc c'est quelque chose qui est simple à mettre en place, ou alors une forme un peu plus évoluée, comme un blog par exemple, qui vous permettra de gérer notamment des droits d'accès et qui proposera une expérience de lecture plus intéressante pour les personnes à qui vous allez adresser votre message de veille. Lorsqu'on parle de diffusion, il est important également de choisir la fréquence pour ne pas se noyer dans un trop-plein d'informations, si vous voulez. Par exemple, une veille quotidienne peut concerner un mot-clé. Pour un produit, ça serait plutôt de l'ordre hebdomadaire. Et enfin, pour une techno, la veille brevet ou une veille métier, là, vous pouvez faire en sorte d'avoir une veille plutôt mensuelle. Donc voilà, personnellement, moi c'est ce que je fais, mais après ça doit être une démarche qui est vraiment très personnelle, c'est à vous de calibrer évidemment la fréquence par rapport à l'importance que vous allouez à chacun de ces sujets. Alors on arrive à la fin de ce cours, et je voulais vous donner encore quelques conseils, issus de mon expérience dans le domaine. Alors tout d'abord, le premier conseil que je pourrais vous donner, qui est sans doute le plus important, c'est de faire simple et de commencer petit. Ensuite, cherchez à viser vraiment l'efficacité maximale en privilégiant l'automatisation. Évitez aussi de crouler sous les informations. Cherchez vraiment à régler la bonne carburation. Il est important aussi de cibler vos recherches. Ne cherchez pas à tout savoir sur tout, c'est inutile et surtout contre-productif. Vous devez aussi rester critique par rapport à la qualité des informations que vous allez recueillir. Ne croyez pas tout, essayez de croiser les informations avant d'en avoir une certitude. En tout cas, gardez toujours l'esprit d'un doute, on va dire. Et en même temps, soyez curieux et ouvert par rapport aux signaux faibles. Et enfin, lorsque vous organisez la diffusion de l'information, dites-vous toujours qu'elle doit être utile aux autres. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment de tester les outils que l'on vient de voir pour vos recherches d'informations. L'exercice que je vous propose de faire est le suivant. Tout d'abord, choisir un sujet de recherche sur un de vos projets. Ensuite, faire une collecte d'informations en utilisant tout simplement les outils que l'on vient de voir. Puis, synthétiser les informations pertinentes et en faire une liste tout simplement. Et enfin, partager ces infos sous la forme de votre choix. Alors, pour info, au-dessous de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens des sites que nous avons vus dans ce cours. Et profitez également de ce cours, de ce moment privilégié, pour faire le point sur vos abonnements de magazines. Il se peut que vous passiez à côté d'une mine d'informations intéressantes pour votre activité. Et programmer la visite d'un salon professionnel, c'est l'occasion d'initier avec vos collaborateurs ou vos collègues une dynamique et saisir de nouvelles opportunités. Donc voilà, c'est la fin de ce cours, il me reste à vous souhaiter un bon exercice et à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo.